26 février. L'évolution de l'homme. Faut-il connaître l'ivresse pour connaître la sobriété? Faut-il passer par la haine pour savoir ce qu'est la compassion? Faut-il subir des guerres, se détruire et détruire autrui pour savoir ce qu'est la paix? Ce mode de raisonnement est à l'évidence totalement faux. Vous partez du principe qu'il y a une évolution, un développement, un mouvement du mal vers le bien, et ensuite vous figez votre pensée dans ce schéma. Bien sûr, le développement physique existe, la petite plante devenant un grand arbre, et aussi le progrès technique, qui voit au fil des siècles l'évolution de la roue jusqu'à l'avion à réaction. Mais existe-t-il un progrès, une évolution sur le plan psychologique? C'est cela l'objet de notre discussion. Savoir s'il y a une progression, une évolution du moi commençant par le mal pour finir par le bien. Le moi, qui est le centre du mal, peut-il jamais devenir noble et bon grâce à un processus d'évolution, grâce au temps? Non, c'est évident. Ce qui est mauvais, le moi psychologique, restera toujours mauvais. Mais nous refusons d'admettre ce fait. Nous croyons que, grâce à un processus temporel de progrès et de changement, le « je » finira par devenir parfait avec le temps. Tel est notre espoir, tel est notre plus cher désir, qu'avec le temps, le « je » atteigne la perfection. Mais qu'est-ce que ce « je », ce « moi » ? C'est un nom, une forme, un paquet de souvenirs, d'espoir, de frustration, de désir, de souffrance, de joies éphémères. Nous voulons que ce moi se perpétue jusqu'à devenir parfait. Et nous disons donc qu'au-delà du moi existe un super moi, un être supérieur, une entité spirituelle qui est éternelle. Mais puisque c'est notre pensée qui a conçu cette entité, elle demeure dans le champ du temps, n'est-ce pas? Si notre pensée peut concevoir cette entité, c'est évidemment qu'elle est enclose dans les limites de notre champ de raisonnement. Le 27 février. Un esprit libéré de toute occupation. L'esprit peut-il être libéré du passé, libéré de toute pensée, et non des bonnes ou des mauvaises pensées? Comment le savoir? Je ne peux le découvrir qu'en regardant ce à quoi mon esprit est occupé. Si c'est le bien ou le mal qui occupe mon esprit, alors c'est qu'il ne s'intéresse qu'au passé, que seul le passé l'occupe. Il n'est pas libéré de ce passé. Il est donc essentiel de découvrir comment s'occupe l'esprit. Si notre esprit est occupé, c'est toujours par le passé, car notre conscience tout entière n'est autre que le passé. Le passé ne se situe pas seulement à la surface, mais au niveau le plus profond. Et les tensions ancrées dans l'inconscient sont aussi le passé. L'esprit peut-il se délivrer de toute occupation? Autrement dit, l'esprit peut-il rester totalement inoccupé et laisser défiler les souvenirs et les pensées, bonnes et mauvaises, sans rien choisir? Qu'une seule pensée, mauvaise ou bonne, occupe l'esprit et il s'investit instantanément dans le passé. Si vous écoutez vraiment, pas seulement au niveau des mots, mais d'une manière vraiment profonde, alors, vous verrez qu'il est une stabilité qui ne relève point de l'esprit et qui est la libération de tout ce qui touche au passé. Le passé ne peut cependant jamais être éliminé, mais ce passé défile sous notre regard sans devenir un sujet de préoccupation. L'esprit, plutôt que de choisir, est donc libre d'observer. Quand le choix intervient, dans ce mouvement du fleuve de la mémoire, l'occupation renaît. Et dès que l'esprit est occupé, il redevient prisonnier du passé et incapable de voir cette chose qui est réelle, vraie, neuve, originale, intacte. Février 28. Penser engendre l'effort. Comment puis-je rester libre de toute mauvaise pensée et de toute pensée vagabonde? Mais le penseur existe-t-il isolément de la pensée, isolément du mal, des pensées qui s'égarent? Je vous en prie, observez votre propre esprit. Selon nous, il y a le « je », le « moi » qui dit « tiens, voilà une pensée vagabonde » ou « c'est mal » ou bien « je dois contrôler cette pensée » ou encore « je dois garder cette pensée. » Nous connaissons bien tout cela. Mais celui qui est ce « je », le penseur, celui qui tranche, qui juge, le censeur, est-il distinct de tout le reste? Le « je » est-il distinct de la pensée? Est-il différent de la pensée, de l'envie, du mal? Ce « je » qui se prétend distinct du mal essaye sans cesse de me dominer, veut m'éliminer de la scène, cherche à devenir quelque chose. D'où cette lutte, ces efforts pour chasser les pensées, pour ne pas s'égarer. C'est nous qui, par le processus même de la pensée, avons créé ce problème de l'effort. Est-ce que vous me suivez? Alors, vous engendrez la discipline, la prise de contrôle de la pensée, le « je » contrôlant telle pensée qui n'est pas jugée bonne, le « je » s'efforçant de devenir non-violent et sans jalousie, le « je » qui veut être ceci, être cela. Vous avez ainsi donné naissance à ce processus même de l'effort, où il y a d'une part le « je » et de l'autre la chose que ce « je » s'efforce de contrôler. Telle est la réalité de notre existence quotidienne. Mars. L'esprit libre est humble. Avez-vous déjà examiné la question de la dépendance psychologique? Si vous l'approfondissez vraiment, vous constaterez que nous sommes presque tous terriblement seuls. Nous avons le plus souvent un esprit tellement superficiel et vide. Nous ignorons le plus souvent ce que signifie l'amour. C'est cette solitude, cette insuffisance, cette privation de vie qui nous incite à nous attacher à quelque chose. Nous sommes attachés à la famille, nous dépendons d'elle. Et lorsque notre mari ou notre femme se détourne de nous, nous sommes jaloux. La jalousie n'est pas l'amour, mais l'amour devient respectable quand la société le légitime dans la famille. C'est encore une autre forme de défense, une nouvelle fuite face à nous-mêmes. Toute forme de résistance engendre une dépendance. Et l'esprit qui est dépendant ne peut jamais être libre. Il faut que vous soyez libre, car vous verrez qu'un esprit qui est libre a en lui l'essence de l'humilité. Cet esprit-là, qui est libre et par conséquent plein d'humilité, est capable d'apprendre, contrairement à l'esprit qui résiste. Apprendre est une chose extraordinaire. Apprendre et non accumuler des connaissances. L'accumulation du savoir est une toute autre affaire. Ce que nous appelons le savoir est relativement facile, car c'est un mouvement qui va du connu vers le connu. Mais apprendre est un mouvement du connu vers l'inconnu. C'est seulement ainsi que l'on apprend, n'est-ce pas? Mars. Une dépendance jamais remise en cause. Pourquoi sommes-nous dépendants? Psychologiquement, intérieurement, nous sommes dépendants d'une croyance, d'une philosophie. Nous attendons d'autrui des directives pour notre conduite. nous cherchons des maîtres qui nous offriront un mode de vie capable de nous conduire à quelque espoir, à quelque bonheur. Nous sommes donc toujours à la recherche d'une forme de dépendance, de sécurité. Est-il possible que l'esprit puisse jamais se libérer de ce sentiment de dépendance ? Ce qui ne signifie pas que l'esprit doive atteindre à l'indépendance, qui n'est qu'une réaction par rapport à la dépendance. Nous ne parlons pas ici d'indépendance, de liberté par rapport à un état particulier. Si nous parvenons à explorer, mais sans chercher, par manière de réflexe, à nous libérer d'un quelconque état de dépendance, alors nous pourrons creuser la question beaucoup plus profond. Nous admettons la nécessité de la dépendance. Nous la disons inéluctable. Mais jamais nous n'avons remis en cause l'ensemble du problème. Jamais nous ne nous demandons pourquoi chacun d'entre nous est en quête d'une certaine forme de dépendance. N'est-ce pas parce qu'il y a au plus profond de nous cette exigence réelle de sécurité, de permanence ? Plongés dans un état de confusion, nous voulons que quelqu'un d'extérieur nous tire de cet état. Nous cherchons donc sans cesse le moyen de fuir ou d'éviter l'état dans lequel nous nous trouvons. Ce processus d'évitement nous amène immanquablement à susciter une forme de dépendance qui devient l'autorité qui nous gouverne. Si, pour notre sécurité, notre bien-être intérieur, c'est de quelqu'un d'autre que nous dépendons, cette dépendance est source d'innombrables problèmes que nous nous efforçons alors de résoudre et qui sont liés à l'attachement. Mais jamais nous ne remettons fondamentalement en question le problème de la dépendance en soi. Si nous parvenons à explorer le cœur de ce problème de manière intelligente et pleinement lucide, alors peut-être découvrirons-nous que la dépendance n'est pas du tout le vrai problème. Ce n'est qu'un moyen de fuir une réalité beaucoup plus profonde. Mars. Les causes profondes de la dépendance. Nous savons que nous sommes dépendants de notre relation aux autres ou d'une idée, d'un système de pensée. Pourquoi cette dépendance? En réalité, je ne crois pas que la dépendance soit le vrai problème. Je crois que ce sont des facteurs beaucoup plus profonds qui font de nous des êtres dépendants. Et si nous savons démêler ces causes, alors la dépendance et la lutte pour s'en libérer ne compteront plus guère. Alors tous les problèmes issus de cette dépendance s'évanouiront. Quel est donc le problème fondamental? Est-ce la haine et la crainte qui hantent l'esprit à l'idée d'être seul? Mais cet état qu'il essaye d'éviter, l'esprit le connaît-il? Tant que la solitude n'est pas réellement comprise, ressentie, pénétrée, dissipée, peu importe le terme, tant que persiste ce sentiment de solitude, la dépendance est inévitable et on ne peut jamais être libre. On ne peut jamais découvrir par soi-même ce qu'est la vérité, ce qu'est la religion. Mars. Une conscience plus profonde. La dépendance déclenche un double mouvement de distance et d'attachement, un conflit perpétuel et sans issue, s'il n'est pas compris. Il faut que vous preniez conscience du processus d'attachement et de dépendance, mais sans condamnation ni jugement. Alors, vous percevrez la signification de ce conflit des contraires. Si vous devenez intensément perceptif et si vous attelez consciemment votre pensée à la compréhension de la pleine signification du besoin et de la dépendance, votre esprit conscient sera ouvert et lucide à ce sujet. Alors, le subconscient, avec ses mobiles cachés, ses exigences et ses intentions occultes, se projettera dans le conscient. C'est alors le moment où il faut étudier et comprendre tous les messages de votre inconscient. Si vous le faites de manière assidue, si vous prenez conscience des projections du subconscient après que l'esprit conscient a élucidé le problème le plus clairement possible, alors, même si votre attention est occupée ailleurs, le conscient et le subconscient résoudront ce problème de la dépendance ou tout autre problème. Ainsi, s'installe une conscience permanente qui, avec patience et douceur, apportera l'intégration. Et pour peu que votre santé et votre alimentation soient correctes, cela vous apportera en retour la plénitude totale.